Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous commençons aujourd'hui une série qui portera sur les relations qu'Abraham entretenait avec son neveu Lot.
Les passages de la Bible relatant l'histoire de ces deux personnages sont riches en instructions et en encouragements pour notre propre parcours spirituel.
Dans un instant, Antoine nous rejoindra sur le plateau pour nous parler d'Abraham et de son neveu Lot. Mais auparavant, Sandra va nous lire Genèse chapitre 19, versets 30 à 38.
Par la suite, Lot quitta Tsoar et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aînée dit à la cadette :
Notre père est déjà âgé, il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous, selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance.
Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père, et l'aînée vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune :
Voici que la nuit dernière j'ai couché avec mon père. Enivrons-le encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance.
Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla s'étendre auprès de lui. Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab. La cadette eut aussi un fils qu'elle appela Ben-Ami.
Merci pour cette lecture et bonjour Antoine.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Nous arrivons donc à la fin de notre série sur Lot, le neveu d'Abraham, et il faut l'avouer, son histoire se termine plutôt mal. Les événements relatés lors de notre lecture biblique sont choquants.
Vous avez raison Yann. La Bible est un livre honnête. Elle ne cache ni les erreurs des hommes, ni même leurs péchés.
Nous avons appris lors d'une émission précédente que Lot avait quitté Abraham pour aller vivre dans la ville de Sodome, dans l'espoir de s'y enrichir. Toutefois, aujourd'hui, nous découvrons que cet homme n'a plus rien. Il doit même s'installer dans une caverne, ruiné et seul, avec pour unique compagnie celle de ses deux filles. Mais comment en est-il arrivé là?
Lot avait choisi de vivre dans une ville où l'immoralité était devenue aux yeux de tous un phénomène normal, et de ce fait, des pratiques dégradantes et perverties y étaient courantes. C'est la raison pour laquelle Dieu avait décidé de détruire cette ville et ses habitants. Toutefois, dans sa grâce, il avait permis à Lot d'échapper à ce châtiment. Malheureusement, seules ses deux filles ont pris la fuite avec lui. De toute évidence, cette famille plutôt aisée dans le passé a désormais tout perdu lors de cette terrible catastrophe qui a frappé Sodome. Ils y ont échappé, mais n'ont pu que sauver leur vie.
Et que pouvons-nous en apprendre?
Si Lot se trouvait à Sodome, c'est parce qu'il avait fait le mauvais choix. En poursuivant son goût pour les richesses, il s'est éloigné de la bonne influence de son oncle Abraham. Ses décisions ont dû affaiblir sa foi et il s'est retrouvé en un lieu où le jugement de Dieu allait frapper. Toutefois, dans sa bonté, Dieu l'a secouru, mais Lot a tout de même subi les conséquences de ses décisions mal avisées. Voilà un avertissement pour nous. Ne prenons pas de décisions hâtives. Ne nous précipitons pas sur des chemins qui pourraient nous éloigner d'autres chrétiens, de l'Église et de Dieu. Certains choix dans la vie semblent très attrayants, mais ils peuvent s'avérer trompeurs et nous pouvons en arriver à tout perdre. Réfléchissons avant d'agir et recherchons la sagesse de Dieu auprès de son peuple et dans sa parole.
Merci pour ces bons conseils. Lot et ses filles sont à présent démunis. Puis la Bible nous relate cet incident choquant de relations incestueuses entre elle et le père. Comment expliquer cela?
Il est possible de l'expliquer, mais impossible de l'excuser. Les filles de Lot ont tout perdu. En considérant leur situation, Elles ne voyaient pas ce qu'elles pourraient faire. Leur père commençait à vieillir et elles devaient se demander qui allait prendre soin d'elles dans l'avenir. Des préoccupations tout à fait justes et compréhensibles. Toutefois, pour obtenir chacune un héritier qui prendrait soin d'elles durant leur vieillesse, elles eurent recours à l'inceste. Il est évident que Lot ne pouvait pas approuver un tel projet, puisqu'il a fallu que ses filles l'enivrent pour le faire coopérer.
Nous pouvons comprendre l'inquiétude qui tourmente ces deux filles. Toutefois, leur détresse ne peut pas justifier un tel comportement.
Non, absolument pas. La Bible interdit toute relation incestueuse. Et j'ajouterai même que le fait d'enivrer une personne dans le but de la manipuler revient à de la maltraitance.
Qu'auraient dû alors faire les filles de Lot?
Elles auraient dû apporter leur situation devant Dieu dans la prière. Elles auraient dû lui faire confiance. Dieu est capable d'intervenir pour secourir et sauver ceux et celles qui croient en lui.
Et est-il possible de savoir pourquoi ces deux femmes n'ont pas mis leur foi en Dieu?
Le texte ne le dit pas. Toutefois, je vais évoquer deux éléments qui ont probablement contribué à leur manque de foi. Tout d'abord, Lot s'était éloigné de Dieu. Alors, il est possible qu'il n'ait pas élevé ses filles dans la connaissance de Dieu. Il est possible que son manque de confiance en l'Éternel ait laissé ses filles sans bon exemple à suivre.
En tant que parents, nous devons nous interroger et nous demander si notre vie et nos actes sont véritablement un exemple de foi pour nos enfants, ou si au contraire, nous allons les refroidir de marcher avec Dieu.
Voilà une question pertinente et importante. Et à présent, je voudrais parler d'un deuxième élément qui a probablement fortement influencé le comportement des filles de Lot. Ces filles, qui ont vécu à Sodome, ont été témoins de la profonde immoralité qui y régnait. Elles ont donc probablement tout simplement suivi le mauvais exemple de leurs contemporains. Ne sous-estimons pas la mauvaise influence de ceux qui nous entourent. Il est tellement facile d'absorber leur mentalité, puis d'en adopter les comportements. De nos jours, les mauvaises influences viennent non seulement de notre entourage, mais aussi et peut-être surtout des médias. Il nous faut donc être vigilants. Tous, et les jeunes en particulier, nous avons besoin d'un bon enseignement, de voir de bons exemples et de pouvoir croître en sagesse et en discernement et véritablement vivre par la foi.
Merci Antoine. C'est ainsi que cette série de discussions se termine et nous vous remercions pour votre enseignement.
Merci Yann. Tout le plaisir est pour moi. Au revoir à tous.
Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique et nous nous pencherons sur la première épître de Jean. Sandra va nous lire les versets 5 à 10 du chapitre 1. Ensuite, Claude nous fera part de ses réflexions.
Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous.
Merci Sandra, et bonjour à tous. L'apôtre Jean nous a annoncé une nouvelle formidable. Il est possible de connaître Dieu, de marcher en communion avec lui. Toutefois, dans le texte lu, l'apôtre soulève deux attitudes qui dévoilent que l'on ne jouit pas forcément de cette communion. quoi que l'on puisse croire ou prétendre. Nous devons donc bien comprendre de quelles attitudes il s'agit. Nous commencerons à examiner la première aujourd'hui et la deuxième la prochaine fois. L'apôtre Jean le déclare, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Si Dieu est lumière et que nous disons être en communion avec lui, alors nous devons nous exposer à sa lumière et laisser cette lumière pénétrer notre cœur et nos pensées. Dieu est lumière, il est la source de toute vérité. Dieu est lumière, cela signifie aussi qu'il est saint, juste et pur. Être en communion avec Dieu, c'est laisser sa vérité éclairer notre intelligence et corriger notre ignorance. Marcher dans la lumière, c'est voir le monde avec le regard de Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est également laisser la lumière de sa sainteté et de sa pureté éclairer nos cœurs et exposer nos fautes. Nous le savons bien, lorsque nous ouvrons les volets d'une pièce, longtemps restée fermée, et que le soleil y pénètre brusquement, nous y remarquons alors toutes les saletés, la poussière et les réparations à effectuer. Ce que nous ne pouvions nullement constater lorsque la pièce demeurait dans l'obscurité. De la même manière, lorsque nous nous exposons à la lumière de Dieu, nous voyons plus clairement ce qui ne va pas dans nos vies. Nous découvrons à quel point nous sommes impurs et coupables devant Dieu. Il n'est pas toujours agréable de laisser la lumière de la vérité et de la sainteté de Dieu éclairer nos vies, car Dieu met alors l'accent sur les attitudes et les pensées que nous devons changer. Ceci étant, nous sommes devant un choix à faire. Car nous pouvons d'une part suivre les conseils de l'apôtre Jean, c'est-à-dire confesser nos péchés et chercher le pardon de Dieu, ou nous pouvons fermer nos cœurs à la lumière de Dieu et refuser de se laisser corriger. Mais en agissant ainsi, nous ne pouvons plus prétendre que nous marchons en communion avec Dieu, car nous lui fermons la porte, tirons les volets, et lui montrons que nous préférons vivre dans les ténèbres.
Merci Claude pour cette leçon importante. Examinons-nous chacun et considérons si, réellement, nous marchons dans la lumière de la connaissance de Dieu.
C'est ainsi que nous terminons notre émission. Nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.